Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouveau conseil de famille, un conseil de famille consacré aujourd'hui aux 1000 premiers jours. Alors, on est en 2020 quand Emmanuel Macron, président de la République, a commandé une grande commission autour de la naissance. Il l'a confiée au célèbre neuropsychiatre Boris Cyrulnik, qui est actuellement encore le président de ce projet. Et ce projet s'appelle donc les 1000 premiers jours. C'est un programme en direction des futurs parents qui explique, accompagne et informe depuis la grossesse jusqu'à environ, on va dire, aux 2 ans des enfants, voire un tout petit peu plus, de parfois jusqu'à l'entrée de la maternelle. Ce programme se décline dans une version papier, la version livre, dans une version numérique, qui est très pédagogique, on en parlera, mais aussi à travers des actions de professionnels. C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui avec notre invité. Notre invité aujourd'hui, Émeline Oustrin. Bonjour.
Bonjour à tous.
Merci d'être avec nous dans ce conseil de famille. Vous êtes venue nous parler aujourd'hui, Émeline, des 1000 premiers jours et vous faites partie de l'association Terre Contact.
Oui, effectivement.
On va aussi accueillir nos chroniqueuses habituelles. Anne-Marieke, bonjour Anne-Marieke.
Bonjour.
Anne-Marieke Stams, donc coordinatrice pour le programme de réussite éducative en Lot-et-Vois. On accueille aussi notre psychologue Maude Fréchou.
Bonjour.
Pour l'école des parents et des éducateurs. Et puis Valérie Orvin, coordinatrice et formatrice pour l'association Grandir Ensemble. Bonjour,
bonjour
Valérie. Et tu es aussi formatrice en éducation émotionnelle et relationnelle.
Ah oui.
Donc je le disais, ces 1000 premiers jours, c'est une version qui s'adresse aux parents, aux futurs parents aussi, puisque ça démarre avant la grossesse. Et c'est une version qui s'est déclinée sur l'ensemble des territoires. En Lot-et-Vois-Larzac, c'est l'association Terre Contact avec la Compagnie des Jeux qui a repris ce programme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi il consiste, ces 1000 premiers jours ?
Oui, bien sûr. Donc en fait, c'est un appel à projet voilà, qui a été lancé en début d'année dernière. Et c'est le service enfance-jeunesse de la communauté de communes du Lot-et-Vois-Larzac qui a répondu à cet appel à projet, donc qui le porte et qui a fait appel à 2 structures associatives, donc la Compagnie des Jeux et Terre Contact, pour mettre en place sur le terrain. L'idée, c'est d'aller vraiment au plus près des familles, d'aller vers elles, de mettre en place des ateliers et des espaces d'accueil dédiés aux familles et à la petite enfance.
Voilà, alors donc l'intérêt de ces associations qui sont sur le territoire, c'est justement d'aller vers les populations.
Oui, on est vraiment dans une démarche de sortir des murs, de sortir des lieux voilà, identifiés pour une partie des familles comme les bibliothèques, comme les lieux d'accueil enfants-parents. Là, l'idée, c'est d'investir un jardin public, de s'installer sur une petite place, de se mettre devant le parvis du musée et de proposer de manière vraiment libre et spontanée un accueil qui se veut gratuit, anonyme, avec différents professionnels pour aborder d'une manière la plus, on va dire, simple possible les questions qui préoccupent les jeunes parents.
Alors concrètement, qu'est-ce que vous faites dans cet accueil ?
Alors, on dispose déjà un espace qui est sécurisé, donc qui va permettre aux parents de pouvoir s'arrêter, s'installer et permettre à l'enfant d'aller vraiment sur des jeux et des activités qui sont, on va dire, libres. En fait, il n'y a pas un programme ou quelque chose de très construit. Au contraire, c'est des propositions et tout est en accès libre. Et donc, l'enfant va spontanément, progressivement, se détacher du parent, aller jouer et au travers de ces supports ludiques ou créatifs, va se travailler effectivement des échanges, on va travailler la parole et inviter au fil du temps et les séances les parents à venir à s'approprier en confiance cet espace.
Alors les 1000 premiers jours, ça s'adresse aux femmes enceintes, aussi. Oui. Est-ce que vous avez quelque chose pour elle?
Oui, oui, oui. Alors, ben, très concrètement, en fait, surtout là, sur cette période un petit peu hivernale, hein, donc c'est un projet qui a démarré en décembre dernier et qui va se terminer à la fin de l'année. Donc, on est tout le temps dehors, même quand il fait froid, on adapte un petit peu notre matériel et on dispose d'un coin vraiment qui invite les femmes enceintes à se poser avec des coussins, des couvertures polaires, des gros ballons. Voilà, c'est vraiment un lieu où on a envie de les chouchouter un peu, de sentir un petit peu coucounées. Voilà, avec des thermos de boissons chaudes et même en plein hiver, on se rend compte que c'est tout à fait facile de créer ce genre de rencontres dans l'espace public.
Valérie.
j'ai envie de rebondir, je trouve ça formidable en fait qu'il existe ce genre d'espace parce que c'est un grand besoin pour autant les futurs parents que les parents de jeunes enfants de pouvoir se rencontrer premièrement, de rencontrer des professionnels, d'avoir des espaces aussi où ils peuvent enfin respirer un peu, peut-être avoir un petit répit, les enfants parlent jouer, voilà, les mamans peuvent se poser, ça peut les sortir de leur isolement, enfin voilà, parce que voilà, je peux rappeler que cette période des 1000 premiers jours, hein, donc les 3 premières années en gros, c'est vraiment le moment où le cerveau de l'enfant qui a des milliers de cellules, beaucoup plus que dans un cerveau adulte, va commencer à fabriquer les chemins de fonctionnement et que du coup, plus à cette période-là, ça va être tranquille, calme, sécurite, avec beaucoup, beaucoup de portages, de contacts, etc., plus l'enfant sera apte à respecter des cadres, à dire ce qui se passe pour lui si on l'accompagne au niveau des émotions, etc. Donc, c'est vraiment une période clé dans la fabrication d'un être humain, en fait. Et du coup, qu'il puisse exister des espaces comme ça de rencontres spontanées. Enfin, vous allez auprès des familles, quoi, dans la rue, dans l'espace public, effectivement. Ça permet de pas avoir à faire une démarche et de pouvoir, effectivement, commencer à rencontrer pour ensuite faire des démarches et aller vers. Cependant, la première des choses, c'est ce qui se passe à la maison. Et pour pouvoir avoir l'idée d'aller dans ce genre d'endroit, il s'agit d'abord d'être tranquille en tant que parent et d'avoir un espace pour respirer. Donc oublions pas toujours pareil, hein, de respirer, même quand on est exaspéré, même quand on est épuisé. On sait que dans les premières années de vie d'un enfant, on perd beaucoup de sommeil, qu'il y a beaucoup de burn-out. Peut-être que Maud, tu pourras en parler. Burn-out parental, je crois qu'on va faire une émission là-dessus,
oui,
d'ailleurs.
Oui, c'est prévu.
Enfin voilà, donc c'est vraiment une période essentielle. C'est très, très, très important de s'y intéresser. Donc n'hésitez pas aussi à aller sur Internet, voir tout ce que raconte effectivement Boris Cyrulnik à ce propos-là et tous les professionnels qui ont travaillé autour de ce projet. C'est juste passionnant et ça donne des clés.
On a longtemps dit que, en fait, ce qui était important, c'était à partir de la naissance jusqu'à peu près aux 6 ans de l'enfant. D'ailleurs, il y avait un livre qui s'appelait Tout se joue avant 6 ans.
Moi, j'ai 5 ans, je crois. D'ailleurs,
que j'ai lu à l'époque où je faisais mes études. Voilà. Et c'était vachement culpabilisant en même temps.
Hyper culpabilisant.
On se disait, mince, si j'ai pas fait ça avec lui ou avec elle avant 6 ans, qu'est-ce qui va se passer après? J'ai raté une étape.
C'est quand même un peu plus nuancé dans la réalité de ce qu'on sait aujourd'hui. Mais effectivement, il y a des étapes qui sont très importantes dans la construction de l'enfant. Effectivement, ces 1000 premiers jours sont extrêmement importants. Ça ne veut pas dire que s'il y a une chose qui ne s'y passe pas comme tous les enfants, la norme est large et il y a aussi des choses qui peuvent encore se passer
bien sûr,
après.
Bien sûr.
Voilà, donc il ne faut pas non plus, je pense, culpabiliser les parents et les angoisser parce que ça peut être super angoissant.
Tout est toujours rattrapable, voilà. Ça c'est clair.
C'est...
Cependant...
Oui,
si on peut poser des bases solides au lieu d'essayer de réparer derrière, c'est quand même...
C'est plus simple. Hein,
c'est plus simple, exactement.
Voilà.
C'est le mot.
Et Maud. Je rebondis. C'est vrai qu'à l'époque, moi, de mes études, il y avait notamment, on était très... une référence clé pour nous était Dolto, où elle disait tout se passe avant 3 ans. Hein, c'était même avant l'avènement du langage. Hein, c'était quand même... mais c'est vrai que depuis, et fort heureusement, on a fait des découvertes fort intéressantes grâce aux neurosciences qui nous permettent d'avancer le concept que le cerveau humain est... se développe grâce à la plasticité cérébrale, donc cette capacité de cerveau à pouvoir se modulariser en fonction des expériences affectives que l'enfant rencontre, et que la plasticité cérébrale, elle est présente et active tout au long de la vie. Alors évidemment, moi j'ai tendance à dire, plus on vieillit, c'est un peu comme les muscles, moins on est souple, hein,
c'est bien connu.
C'est bien connu. ça c'est une certitude, mais effectivement il y a de grandes possibilités dans l'après-coup de pouvoir travailler, accompagner des enfants qui n'ont pas forcément eu des bases sécures au départ. Il y a quand même la résilience, aussi un autre concept important que Céronique a beaucoup développé, permettant quand même de se dire, il y a quand même des choses à faire après et rien n'est terminé, quoi.
Justement, pour rebondir sur ce qu'elle disait, c'est que sinon tous ces professionnels, si vraiment tout était joué avant, on ne serait pas là. Il n'y aurait plus rien à faire.
À rien.
On ne serait pas là. Voilà.
Tout à fait.
Bien sûr. Pour revenir à Boris Cyrulnik, moi, je vous invite aussi à aller regarder donc cette application.
Oui.
Les 1000 premiers jours qu'on peut télécharger ou pas. Hein, on peut aller voir. Il y a aussi plein de petits podcasts, etc. Et notamment, ce que je trouve très très intéressant, c'est que l'arrivée de cet enfant, elle se prépare. Et donc dans les 1000 premiers jours, il dit bien que c'est pas les 1000 premiers jours à partir de la naissance, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, avant on considérait que l'enfant naissait, voilà, ça démarrait là. En fait non, ça démarre bien avant. D'ailleurs Boris Cyrulnik parle de cette niche sensorielle où l'enfant va naître, c'est-à-dire toute cette construction parentale, tout ce fantasme, toute cette histoire dont il est déjà imprégné, mais bien avant sa naissance, et même peut-être avant sa conception. C'est un projet de couple. Oui, Valérie.
Bah ça, justement, Catherine Dumontet-Crémer, elle en parle super bien dans son bouquin illustré là qui s'appelle La parentalité créative. Bon, elle parle vraiment de l'avant, effectivement, et c'est un guide dessiné pour accompagner de la naissance à 6 ans, qui est super bien fait. Et cette importance de comment on se l'imagine, cet enfant qui va arriver, qu'est-ce qu'il représente dans nos vies, quelle place il va avoir par rapport à la place qu'on avait nous. Enfin bon, toute une histoire, effectivement.
Alors, vous disiez que vous receviez donc des femmes enceintes. J'imagine qu'elles viennent parfois avec un autre enfant, d'autres la fratrie, qu'elles s'installent. Comment ça se passe? Comment si par exemple je suis enceinte, par exemple je suis une maman enceinte, je souhaite venir participer à tout ça, en tous les cas voir ce qui se passe. Comment je sais où vous trouver?
Alors pour nous trouver, il y a différentes sources. On édite tous les trimestres un petit programme qui indique le lieu où on va s'installer. Donc on est il y a deux séances par mois, deux accueils par mois, un accueil sur l'Odève. On change de lieu à chaque fois pour visiter différents quartiers.
Être au plus près
vraiment des gens. Donc c'est souvent à côté d'un parc. On est dans le parc municipal. On est à côté de la passerelle de la Soulondre. On est sur le parvis du musée, en face de la médiathèque. C'est des lieux qu'on généralement fréquentés par les familles, ou un lieu de passage où effectivement des parents vont déposer les grands frères et les grandes sœurs à l'école. Et c'est au retour au domicile qu'on va se trouver en fait sur leur chemin. Et c'est là que de manière très spontanée, la rencontre s'opère. Et c'est là qu'on va pouvoir démarrer de manière très très simple une conversation, un échange. Et c'est là que le projet en fait a tout son sens en fait, d'être dans la spontanéité.
Donc si je tape les 1000 premiers jours en Lodévois et Larzac,
oui,
je saurai où vous trouver.
Voilà, il y a ce petit programme. Donc on a essayé de disposer tous les petits programmes trimestriels dans les commerces, dans les associations locales. Il y a des affiches un petit peu aussi positionnées un petit peu partout. Et puis après il y a le site internet et le compte Facebook donc des structures partenaires, donc du service enfant jeunesse de la communauté de communes. Voilà, où on a Bernadette Salvagnac qui fait un travail remarquable là-dessus et qui communique et qui renvoie et qui relaie l'information au niveau du réseau. Et puis après, il faut surtout que les familles n'hésitent pas à contacter soit l'association Terre Contact, soit l'association La Compagnie des Jeux. Et d'accord. Là aussi, il y aura une personne référente qui pourra informer les familles des dates, des lieux et aussi des intervenants. Hein. Sur chaque accueil, il y a un intervenant différent qui apporte sa compétence, sa couleur à l'accueil.
Quel type d'intervenant on peut trouver alors ?
Alors là, on a voulu rassembler sur ce projet tous les professionnels du territoire dans une complémentarité. Donc on a autant des professionnels du soin, on a une sage-femme, on a une puéricultrice de la PMI, on a des professionnels qui interviennent au niveau éveil musical, éveil corporel, on a un intervenant aussi sur les contes. On propose à chaque fois aux parents et aux familles de suivre une petite aventure. Voilà, la prochaine fois, par exemple, on sera sur le parvis de la médiathèque avec Virginie qui est au service petite enfance et qui va proposer aux familles présentes des lectures collectives. À chaque fois, il y a toujours un thème qui emmène les enfants et c'est au travers de ces lectures qu'on va aborder l'importance du livre, l'importance de raconter des histoires.
Même au tout petit, bien avant le langage.
Bien avant, oh oui. Déculpabiliser aussi le parent quand l'enfant met le livre à la bouche, le tord dans tous les sens. Il y a des livres qui sont conçus pour ça, qui sont là pour ça. Ou aussi tout simplement de dire mais c'est pas grave si votre enfant il tourne le dos pendant la lecture et qu'il part jouer aux voitures, il y a aucun problème à ça, au contraire l'enfant prend ce qu'il veut et donc ça aussi permet à un parent qui n'est pas encore ou qui se dit la bibliothèque moi mon enfant il bouge trop, il est pas assez trop d'énergie, je peux pas l'emmener, c'est une belle occasion aussi de faire, en fait, comme une sorte, ces espaces des 1000 premiers jours aussi, c'est comme des passerelles entre les familles et ces lieux dédiés à la petite enfance.
Maud, tu voulais intervenir sur...
Oui, je voulais juste te dire que...
Sur l'enfant qui s'agite ?
Alors, pas forcément sur l'enfant aussi qui s'agite, mais justement par rapport à ce que dit Emine sur la lecture. Moi, j'avais participé il y a quelques années à une conférence autour du livre et le tout petit à 7 qui m'avait passionnée. Et justement, ils expliquaient, et je trouvais ça... Moi, ça m'a beaucoup aidée, moi-même en tant que maman, j'avoue, que c'est pas qu'un enfant, on a l'impression qu'il n'écoute pas, qu'en fait, il n'écoute pas.
Absolument.
Et ça, c'est assez incroyable, ces tout petits qui ont lu une histoire, qui vont tourner le dos, ils vont jouer aux petites voitures ou autres, et puis qui finalement écoutent tout ce qui se passe. Donc ça, je trouve que pour les parents, c'est intéressant qu'ils puissent l'avoir aussi en connaissance, parce qu'on peut avoir une tendance à dire non, mais il faut qu'il reste assis. Ben pas du tout. En fait, un enfant petit, il peut bouger, il peut circuler dans la pièce et effectivement écouter une histoire. Et j'avais comme information aussi que c'est pas. Alors après, ça peut faire débat, mais que les histoires pour les enfants, on peut raconter des histoires longues à des petits enfants. De pas plaquer forcément des tout petites histoires aux enfants de moins de 3 ans, mais qu'on peut vraiment pour leur permettre de développer le langage, la pensée, de pas hésiter à vraiment à raconter une histoire sur peut-être plusieurs jours, mais un peu longue. Et les enfants tout petits s'y intéressent beaucoup. Et je trouve que c'est intéressant de l'avoir en tête parce que, voilà, des fois, on peut comme ça, en fonction des âges, dire tiens, mais en fait, on peut vraiment élargir la lecture parce que les enfants très jeunes sont très curieux, quoi.
Oui,
s'intéressent à plein de choses.
En tous les cas, ces rendez-vous des 1000 premiers jours, c'est aussi l'occasion d'expérimenter des choses nouvelles.
Complètement.
Valérie.
Oui, ça va dans ce sens-là, c'est-à-dire c'est l'occasion d'expérimenter des choses nouvelles et c'est l'occasion de voir son enfant autrement. autrement. C'est-à-dire qu'on le voit dans des situations qui n'existent pas à la maison, et puis on voit d'autres adultes interagir et d'autres enfants. Ça, on le voit pas à la maison. Et du coup, on peut découvrir d'autres facettes de notre enfant quand on l'emmène dans ce genre d'endroit.
Et je trouve vraiment que ces actions-là, elles participent vraiment à la prévention précoce. Et c'est vraiment, vraiment très, très important. On va en parler aussi, mais on va faire une chronique hein, sur le burn-out parental. Mais ça vient aussi peut-être sensibiliser à cette question-là, permettre à des parents qui sentent déjà des tensions, de la fatigue, un manque de répit, le fait de pouvoir être dans ces espaces-là, on peut déjà, avec certains parents, ils peuvent partager avec des professionnels déjà ce type de difficultés. Et c'est vraiment pour moi de la prévention, vraiment. C'est très intéressant.
Alors on va écouter tout de suite le témoignage d'une jeune femme qui attend son premier enfant. Mélanie, bonjour.
Bonjour.
Merci de répondre à ces quelques questions. Alors, juste peut-être te présenter dans un premier temps, nous dire quel âge tu as, depuis combien de temps tu es enceinte.
Alors, je m'appelle Mélanie, j'ai 34 ans, je suis enceinte du 8e mois et de mon premier enfant. J'accouche dans un mois, voire moins, on verra, c'est la surprise.
Alors, est-ce que tu as entendu parler du programme « Les 1000 premiers jours » ?
Alors, j'avoue, j'en ai entendu parler, j'ai vu une affichette dans le cabinet de sage-femme dans lequel je suis suivie, mais je me suis jamais trop penchée sur la question.
Est-ce que ça veut dire que tu n'as pas de questions?
Je sais déjà tout de la parentalité, de l'accouchement. Non, pas du tout. Bien sûr, j'ai des questions et c'est vrai que c'est quelque chose qui intrigue et j'imagine que c'est quelque chose qui a été bien pensé et qui pourrait m'accompagner dans la fin de ma grossesse et puis la suite avec ce petit bébé qui arrive.
Alors justement, quand on attend un enfant, et souvent en plus le premier, on a des questions. Où est-ce que tu peux poser ces questions? Où est-ce que tu peux attendre des réponses que tu imagines valables?
Eh ben, moi j'avoue que je suis très bien suivie par des sages-femmes super de mon bassin qui nous accompagnent vraiment avec mon conjoint dans la prépa à l'accouchement et qui vraiment nous laisse un terrain, libre de questions et de...
Donc plutôt des professionnels.
Professionnels, oui. Et après, de la parentalité, de l'entourage et tout, j'avoue que j'ai la sensation que c'est des choses que je partage plus avec des femmes qui ont déjà vécu ça. Donc des copines ou des voisines du village moi j'aime beaucoup écouter les récits de vie de chacune, autant leur grossesse que leur accouchement, que la suite. Donc c'est quelque chose que je partage, oui, avec des femmes plus. Et au niveau de la famille, je veux pas rentrer dans les détails, mais j'ai perdu ma mère et ma grand-mère, donc c'est pas avec elles que je peux partager ça, mais heureusement je suis très entourée de femmes super qui me donnent chacune leur petit filon et leurs petites expériences.
Quelle est la question qu'on se pose, que tu te poses le plus là, enceinte de 8 mois?
Là, 8 mois, j'avoue, j'approche de l'accouchement, donc c'est un peu ma problématique actuelle, enfin en tout cas mon questionnement. Après, c'est vrai que je trouve que les questions évoluent en fonction de la grossesse, forcément, puisque au début, c'est quelque chose qui n'est pas très visible, et puis le corps commence à évoluer, à changer, on sent plus ou moins le bébé, donc on se questionne, est-ce qu'il va bien, est-ce qu'il va pas bien. Mais là, actuellement, à 8 mois, je dirais l'accouchement. Ouais.
Est-ce que tu irais sur une application telle que celle des 1000 premiers jours qui répond aux questions des mamans? Est-ce que tu penses que tu iras sur cette...
Oui, alors de base, je suis pas très application, réseaux sociaux, tout ça, mais ça me tente très bien. Après, j'ai un portable
ancien,
pas si ancien, mais qui me fait des siennes. Du coup, j'ai entendu dire qu'il y avait une version papier et ça me séduirait plus, je crois. Bien que je suis jeune, j'ai 34 ans, mais le papier me... j'aime bien avoir du papier dans les mains.
D'accord.
Des choses à lire quand j'en ai.
D'ailleurs, je crois que tu voulais partager aussi des lectures.
J'ai deux petites références de choses à lire pour les femmes qui sont enceintes, qui parlent surtout de l'accouchement. C'est premièrement la BD sur la naissance de Lucille Gomez, qui est en 2 tomes, qui explique vraiment bien l'accouchement, notamment physiologique, sans péridurale et pas que. Elle parle aussi de la péridurale, de la césarienne et de toutes les possibilités. avec plein d'humour et c'est hyper agréable. Elle décrit vraiment bien toutes les étapes de l'accouchement. Et ensuite, le bouquin « J'accouche bientôt, que faire de la douleur » de Maïtier Trélaune. Je ne sais pas si j'écorche son nom, mais je m'en excuse si c'est le cas. Qui, pareil, accompagne vraiment dans cette question de cette douleur qu'on traverse pendant l'accouchement. Qu'en faire, quoi ? Comment l'accueillir, et je suis en train de le lire actuellement.
Voilà, Mélanie qui fait part aussi de cette transmission. Alors elle dit bien qu'elle a plus sa maman, elle a plus sa grand-mère. C'était vachement important ça, cette transmission des femmes dans ce qu'elles ont vécu, etc. Avec le meilleur comme le pire. Mais elle dit que là, elle est entourée d'amis qui lui font part, qui lui donnent des petits trucs, tout ça. Ces histoires de 1000 premiers jours, ce programme aussi, c'est aussi permettre de s'informer à la fois à travers des professionnels, mais aussi à travers d'autres mamans qui vont faire part de leurs expériences. C'est partagé.
Oui, c'est échanger. C'est partagé, échanger sur sur les joies de son quotidien, mais aussi sur un peu ses déboires, ses questions, ses peurs. Donc effectivement, l'accompagnement par les pairs est vraiment très très important. L'idée n'est pas de donner des recettes magiques pour le bon sommeil de l'enfant. C'est avant tout échanger son expérience avec d'autres parents. Et bien sûr, un professionnel est là pour apporter aussi ses compétences et répondre aux questions que les parents se posent. Mais c'est pas l'essentiel.
On parle beaucoup des mamans, mais il y a aussi les papas, bien sûr.
Bah oui.
Valérie.
Oui, les mamans, les papas, tout le monde, hein, à la maison, quand bébé se réveille la nuit, ben, ça réveille tout le monde, hein. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est hyper important que l'enfant soit dans un cadre sécurite, dit bienveillant, en tout cas calme et tranquille, où il est vraiment porté, touché beaucoup. Enfin, voilà, portez vos enfants. En plus, vous avez les mains libres de cette manière-là.
Et ça, aussi, les papas peuvent le faire.
Voilà. Bien sûr. Mmh. Et donc, dès qu'on peut, en tant que maman, avoir du relais pour pouvoir dormir quand les enfants dorment, la vaisselle attendra, c'est pas grave. C'est important aussi, avant, effectivement, l'arrivée de l'enfant, de voir comment est-ce qu'on va s'organiser. Quand l'enfant va être là et qu'il va me prendre H24 comme ça, qui va faire les courses, qui va faire à manger, qui va laver le linge, qui va s'occuper de nous, en fait, parce que c'est de ça dont on a besoin. Donc c'est important de s'organiser à ce niveau-là et de voir quand est-ce que, en tant que jeune maman, je vais pouvoir dormir, car j'ai besoin de récupérer pour pouvoir donner ce dont il a besoin à mon enfant, en fait. Donc portez vos enfants, dormez avec eux. Non, ils ne seront pas accrochés. Plus on est attaché, plus on se détache facilement, hein, souvenons-nous de ça, etc. etc. Donc ce n'est pas le sujet ici, mais en tout cas, maternez à fond et dormez, reposez-vous. Si vous avez du relais, profitez-en. Voilà. Respirer surtout.
Maud.
Oui, je voulais rebondir sur le fait qu'il y a quelques semaines de cela, j'avais entendu une émission à France Inter, je ne sais pas si quelqu'un l'a entendu, autour de justement ces jeunes mères et ces jeunes pères. Et elle était vraiment intéressante parce que justement dans notre société, il y a quand même cette pensée magique de dire aux femmes, tu vas voir, c'est super, c'est merveilleux la naissance. Et puis finalement quand même, c'est compliqué, c'est douloureux, c'est fatigant. Et beaucoup de ces jeunes mères parlaient hein, au micro et disaient, mais elles auraient bien aimé à savoir en amont tout ça. Oui. C'est-à-dire pas qu'on leur cache les choses, qu'on leur dise clairement, oui, ça va être difficile, oui, il faut se préparer, s'organiser, comme tu dis, Valérie, et arrêter de dire aux parents, aux jeunes parents, tu verras, parce que c'est pas que beau, il y a aussi des choses difficiles, il y a plein de belles choses, mais il y a aussi des moments difficiles. Et je crois que ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment accompagner dans la vie des jeunes parents.
Oui, puis on a parlé beaucoup des mamans là, mais c'est vrai qu'il faut que le papa aussi,
tienne,
et qu'il soutienne la maman, qu'il la relaie, qu'il participe du plus qu'il peut.
Est-ce que vous avez des papas dans vos rendez-vous là ? Est-ce que vous en avez eu ?
Oui, on a. Alors, pour être honnête, ce n'est pas la majorité hein, des parents qui fréquentent nos lieux d'accueil enfants-parents et les accueils des 1000 premiers jours. Mais il y a des papas, bien sûr, qui sont très présents, très investis. On a des couples aussi. C'est super parce que là, c'est vraiment un temps de partage très très riche et très intense. Hein, quand il y a le couple, c'est super.
Alors, les prochains rendez-vous ? De ces 1000 premiers
Alors,
jours.
Alors, les prochains rendez-vous, donc, sur le mois de mars, donc, vous pourrez retrouver, là, ça sera la Compagnie des Jeux, qui va, donc, animer le 2 mars prochain, sur le parvis de la médiathèque, un temps de comptine et de lecture avec la médiathèque Confluence. Et on va démarrer nos interventions sur la commune du Bosc. Donc par mois, il y a une séance sur l'Odève et une séance sur un petit village. Et là, pendant 3 mois, on sera au Bosc sur le parvis de l'école des 4 vents. Voilà, ce qui va permettre aux familles qui fréquentent l'école de pouvoir s'arrêter sur les 1000 premiers jours, sur les jeudis matins. Et donc, ça sera le 16 mars. Et là, ça sera un temps d'éveil musical avec Donna. Voilà.
Régalade.
Oui, régalade.
Et puis, je crois qu'il y a un temps fort aussi.
Oui.
Au mois de juin, c'est ça?
Au mois de juin, tout à fait. À mi-parcours de ce projet, on a imaginé vraiment sur une journée un spectacle interactif. C'est-à-dire que une compagnie va construire et mettre en place de manière temporaire un décor tout en bambou sur plusieurs mètres de hauteur. Et là, les enfants vont être invités à parcourir une sorte de décor, de labyrinthe avec tout un tas de surprises à toucher, à goûter, à sentir, avec des sons vraiment nature. Donc, c'est un superbe travail. Le spectacle s'appelle Rhizome. Donc, ça sera toute la journée. C'est très, très beau.
Sur quelle date, pardon, on rappelle ?
Donc, ça sera le 8 juin, le 8 juin prochain. Donc là, on travaille avec la distillerie qui, voilà, ça va se confirmer, mais la distillerie va très gentiment nous accueillir dans la cour intérieure. Et donc, tout au long de la journée où il y aura des représentations qui vont s'enchaîner de 3 quarts d'heure, nous serons avec la Compagnie des Jeux, là aussi sur un accueil en continu sur la journée avec d'autres espaces de parole et de jeux pour les enfants. Le spectacle est gratuit, bien sûr, mais sur inscription, parce que c'est des petites jauges. Et là, donc, il faudra s'inscrire soit auprès de Terre Contact, de la Compagnie des Jeux ou encore du service enfance jeunesse de la Comcom.
Voilà, Rhizome le 8 juin à l'Odève. Mesdames, on va se quitter. Un petit conseil de famille, Anne-Maric, pour ces 1000 premiers jours, pour ces moments autour de la naissance.
Osez poser des questions, il n'y a pas de questions bêtes et échangez.
Maud.
Moi, je dirais que la parentalité, ça reste une expérience intense et que c'est normal d'avoir des moments où c'est un peu compliqué. Mmh. Et qu'il ne faut pas hésiter à aller voir des gens, partager, échanger.
Oui.
Très important.
Ouais. Valérie.
Et moi, je rebondis sur ce qu'a dit Emeline. Quand on arrive au monde, on a les 5 sens grands ouverts et c'est comme ça qu'on commence à construire notre carte du monde. Donc, pensons bien à ça et à ce qu'on offre à nos enfants avec leurs 5 sens grands ouverts. Voilà.
Voilà, merci à vous, merci à vous toutes, merci à Anne qui était à la technique de cette émission, merci à Emeline Oustrin donc pour l'association Terre Contact et pour ses 1000 premiers jours.
Merci à Laurence Arsac, Maison des Ados.
Merci, au revoir à toutes et à tous.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir. Au revoir.